you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Difior. Et la prise de son est assurée ce soir par Élise Le, la réalisation Daniel Fino. Autour de moi ce soir, Marie-Josée Sirach, Anna Sigalevitch et Philippe Chevillet. Notre affiche « Je suis un pays » de Vincent Macaigne au théâtre de Nanterre-Amandier puis en tournée. « Professeur Bernardi » de Schnitzer, adapté et mis en scène par Thomas Ostermeyer, en ce moment au Gémeaux, scène nationale de Sceaux. « Maîtres anciens » d'après Thomas Bernard, un projet de et avec Nicolas Bouchot, mise en scène Éric Didry, en ce moment au Théâtre de la Bastille. Aïssa Tundoy est également avec nous pour surveiller le fil Twitter Dispute FC, également la page Facebook Dispute, La Dispute FC, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, pour donner à entendre vos commentaires. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Botero Dialogue avec Picasso, jusqu'au 11 mars à l'hôtel de Caumont d'Aix en Provence. Et nous ouvrons avec l'un des trois spectacles que Vincent Macaigne présente dans le Festival d'automne à Paris. Je suis un pays. Écriture, mise en scène, conception visuelle et scénographique étant signée par le bientôt quadragénaire. Je suis un pays s'origine dans un texte de jeunesse de Macaigne et se situe après la catastrophe politique, écologique, humanitaire, individuelle. Le monde est désormais régi par de nouvelles royautés et le regroupement de grandes sociétés commerciales. Le monde a perdu ses valeurs, ses repères. Mais selon la prophétie, un ange doit donner naissance au prophète en s'accouplant à une vierge. La vierge se nomme Marie Curie, Curie comme le Curie. Bande originale, si l'on peut dire, de ce spectacle, qui ne manque pas de musique. Dommage qu'on n'ait pas entendu du texte, mais on va en parler. Premier regard, celui de Marie-Josée Sirach, nous étions dans la même salle samedi soir.
Merci d'avoir résumé si bien la pièce, car j'avoue que...
C'est qu'un des points.
Je n'avais absolument pas très tout saisi dans la proposition de Vincent Macaigne, qui est un garçon intéressant, qui nous a déjà montré des spectacles qui, moi, m'ont touché, je suis pas embarrassée, bon. Parce que ce soit, au moins j'aurais laissé un beau cadavre ou l'idiot, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans cette tentative de défaire les classiques, de s'emparer du répertoire, de l'exploser dans tous les sens, qui était assez intéressante. Là, j'avoue que je n'ai absolument pas saisi ce qu'il voulait nous raconter. Donc on a droit à des... une sorte d'infanticide ou pas, enfin cet ange qui vient, il y a un peu d'inceste, on arrache les yeux des uns pour les manger, puis un roi est immortel, mais finalement on le tue quand même, enfin... Bref, il y a un artiste contemporain qui aussi apparaît, qui a un rôle On comprend pas très bien.
Il va sauver le monde, je peux vous expliquer.
Voilà, c'est lui qui va sauver le monde. Bon, merci. Avec un déluge d'effets spéciaux, de la musique extrêmement forte. Bon, on a toujours droit au même rituel des boules-quies avant le spectacle, pendant, après. La scène se transforme en un dance floor. Il y a beaucoup de cris, les cris des acteurs, le public qui répond ou pas, peu importe. Et puis McKen qui est derrière et qui bouge, qui est un metteur en scène et en même temps un chauffeur de salle.
Il est en régie tout en haut de la salle, il a un micro, il intervient régulièrement.
Mais de quoi ça parle? Je suis toujours aussi expectative. Alors, vous situez la pièce dans l'après-catastrophe et moi j'ai lu qu'il l'a située dans l'avant-guerre. C'est-à-dire que on arrive à un endroit où la chose est tellement devenue violente, enfin il y a tellement de violences sourdes où le monde est tellement en train d'exploser en éclats qu'on va vers une guerre. Alors pourquoi pas? Je trouve que c'est une idée intéressante.
Mais la scénographie qui nous accueille, c'est quand même la grande salle de discours des Nations Unies, alors qu'il rebaptise Société des Nations pour revenir avant,
si temps,
je puis dire, mais qui est complètement ravagée, à l'abandon, souillée. Donc plein on se dit que des choses se sont passées tout de même.
Oui, des choses se sont passées, mais bon, il y a une femme de ménage qui continue à ménager et qui a ses deux enfants. Enfin bon, je veux dire, tout ça. Oui, peut-être qu'il y a eu un acte terroriste ou pas, on ne sait pas très bien.
Mais quand on était quand même aussi, ça fait partie du rituel, hein, c'est pour donner des informations, quand on est dans le hall, en l'occurrence des Amandiers, on est quand même harangué au mégaphone par les interprètes qui nous disent « Vous êtes les derniers survivants, rentrez dans la salle ». Donc les derniers survivants, je me dis qu'on est quand même après la guerre.
Oui, on est ça, et c'est en même temps l'état d'urgence. Enfin bon, il y a beaucoup de notions en ce moment qui circulent du fait de l'état du monde. Moi, j'ai le sentiment qu'il est un petit peu en retard sur ce qu'il veut nous dire, qu'il ne sait pas très bien. Alors effectivement, c'est une pièce de jeunesse qu'il remet sur le métier. Mais 20 ans ont peut-être passé entre le moment, peut-être 15 ans, je ne sais plus, entre le moment où il a écrit cette pièce, cette tentative d'écriture de pièce, et aujourd'hui. Et je me dis, mais bon sang, il a presque 40 ans, il en est toujours là.
Anna Segalevitch, pour poursuivre.
Oui, je partage plutôt ce que vient de dire Marie-Josée. Moi, je ne suis pas non plus contre McKen, même si j'ai des réserves sur la forme de « au moins j'aurais laissé un beau cadavre » et l'idiot. Mais l'idiot que j'avais vu il y a très longtemps, enfin pas à la reprise il y a 3 ans, j'avais vu la première version qui m'avait vraiment intéressée. Et « au moins j'aurais laissé un beau cadavre » aussi, parce que même si j'avais des réserves dans la forme, je trouvais qu'il y avait du fond, que ça racontait quelque chose des personnages, que je voyais quelque chose du personnage de d'Hamlet, de Gertrude, de Polonius. Enfin, pour moi, il arrivait à s'empoigner, enfin, en tout cas, à s'emparer de ces grands classiques et à les réinventer. On adhérait, on n'adhérait pas. Excusez-moi.
C'est les fumigènes qui vous restent dans la gorge.
Oui, mais alors. Ah oui, mais je vais y venir très vite en fait à tout ça. C'est que là, je dois dire que ce spectacle hier m'a mise dans une colère noire et une colère pas intéressante. Parce que j'avais mis des réserves, par exemple, sur le spectacle de Mohamed El Khatib Stadium. Je disais que ça avait mis les colères et ça. Mais ça m'avait fait réfléchir, ça m'avait interrogé sur moi-même. Là, pas du tout. Pour moi, c'est une colère qui est totalement vaine. Parce que le spectacle, je l'ai vu hier, qu'aujourd'hui, je suis même plus en colère en fait. Parce que c'est rien. Je trouve que ce spectacle est d'une vacuité total, que ça ne raconte rien et qu'on est pris en otage par les délires et les obsessions de Vincent McKen. Alors, il y a quand même un problème d'agression physique, hein, quand même, franchement, je vous le dis, moi je me suis sentie agressée, je pense pas être mijaurée ni bégueule, donc on nous distribue des boules-quies, comme le disait Marie-Josée, ça va très très fort, tous les sens sont agressés, c'est-à-dire que Louis, la vue, ça clignote, les bronches sont complètement agressées parce qu'il y a de la fumée qui est balancée en permanence, enfin pas en permanence, mais trop régulièrement pour qu'on ait le temps de se remettre bien. Et donc c'est une lutte permanente pour d'abord essayer de comprendre ce qu'on nous raconte. Parce que les paroles sont déblatérées beaucoup à coups de mégaphone. Honnêtement, moi je n'ai pas entendu la moitié du texte. Donc déjà, grand effort de concentration et de lutte physique pour garder les yeux ouverts. Alors à un moment donné, on sait plus s'il faut enlever les boules-quies ou les remettre, parce qu'à un moment donné, ils se mettent à chuchoter, donc on n'entend rien avec les boules-quies. Donc après, c'est dans le mégaphone. Enfin, il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. On est vraiment agressé et maltraité. Et j'ai le sentiment qu'il se fait plaisir, Donc que lui, en effet, a besoin de musique très forte pour se sentir vivant, de balancer des choses comme ça, que ça pulse. Ok, très bien, mais c'est pour lui qui fait des spectacles ou c'est pour les spectateurs? Enfin là, c'est à un moment donné, vraiment, je me pose la question, quoi.
Philippe Chevillier, troisième son de cloche.
Alors la cloche va pas sonner vraiment de façon très 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 différente, si ce n'est que, bon, voilà, moi, pour résumer, moi j'aimais bien aussi McCain sur la déconstruction, la destruction des textes classiques avec ce qu'il amenait d'humour, d'une poésie des ruines, comme j'ai lu dans un tweet cet après-midi. Là, on est vraiment dans un vrai problème de texte, c'est-à-dire que le texte est totalement raté, c'est un texte de jeunesse. Et il veut raconter un monde post-apocalyptique. Alors d'après ce qu'on comprend, effectivement, c'est tous les possibles de la tyrannie à la royauté, à une tentative de réinstaurer une démocratie, avec vaguement un monde mondialisé derrière et des firmes, effectivement. Mais chaque idée est jetée comme ça en pâture et rien n'est vraiment mixé. Un récit très très enfantin, avec des histoires quand même de contes de fées qui sont un peu nunuches et qu'on a du mal à suivre. Alors on est obligé de nous les répéter de temps en temps pour qu'on comprenne qui est qui, etc. Et donc, il y a quand même 3h30 de spectacle et il n'y a pas un moment du texte, moi, qui m'a vraiment saisi et intéressé. Et ensuite, alors après, il y a la machine McCain. C'est vrai qu'il sait faire, et il arrive encore à en faire, des images qui sont assez époustouflantes. Le coup des arbres gonflables avec des serpentins, quand on est dans la fumée totale avec des flashs de lumière. C'est un bon DJ, puisqu'il y a quand même des musiques qui font... Alors, c'est ça qui est génial, c'est qu'à l'entrée, il y a plein de lycéens, ils viennent pour ça. On leur dit, levez-vous, ils se lèvent, ils montent sur la scène. Pendant l'émission de télé, une émission de télé-réalité à un moment donné où il y a une émission de télé-réalité un peu régicide, dont effectivement on arrache les yeux d'un roi, on doit tuer cette pauvre Marie Curie qui n'en peut mais, et ça dure. Et le candidat qui gagne se déclare candidat à la présidence de la République, ça dure, et les mômes sont sur scène avec Gangnam Style et tout ça, et ça fait beaucoup de bruit, et ça emporte, mais on a l'impression d'une machine qui tourne à vide, parce que le texte qu'il y a derrière, ce qu'il nous raconte, il y a encore une fois, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires de post-apocalyptique, qui nous raconte le monde tel qu'il est, tel qu'il va mal. Et ce que veut nous dire McCain, c'est bon, l'avenir, il est plus à nous, ou il y a plus d'avenir, comment on peut rebondir? Mais c'est pas avec ce foutoir qu'on va s'y retrouver. Donc voilà, moi aussi j'étais, bon, pas en colère, mais franchement, 3h30, c'était un peu longuet.
Alors ce qui serait bien, c'est que j'ai adoré ce spectacle pour pouvoir dire tout le bien que j'en ai pensé, mais c'est pas le cas. Donc c'est bon. Moi je dirais beaucoup de bruit pour rien, pour résumer, parce que moi ça m'a pas énervé, contrairement à vous, Anna Segevis. Ce qui m'a embêté surtout, c'est que ça m'a ennuyé vraiment le texte. Alors j'ai fait beaucoup d'efforts, moi j'avais pas du tout de boule quies. C'était pas particulièrement fort, c'est fort, mais moins qu'il me semble qu'au Théâtre de la Ville il y a un an ou deux, pour deux ans peut-être pour Idiot. Okay. Mais le texte que j'ai vraiment essayé d'écouter, mais alors glissé sur moi, j'écoutais très attentivement et je n'entendais rien, ou presque. Alors pas seulement parfois pour des raisons physiologiques de son trop fort ou trop faible, mais ce que j'ai entendu, c'était souvent une écriture, on va dire immature, mais qui se voudrait poétique, qui se voudrait subversive, comme peut l'être une écriture adolescente, mais c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Marie-Louise Hirsch, c'est pourquoi pas prendre un texte qu'on a écrit jeune, mais en faire quelque chose aujourd'hui. Hein. Ton regard a embrasé toutes mes forces, je dois avaler le vide immense de ses yeux, je suis celui qui a vu le sang sur les mains de ceux qui ont tué Dieu, enfin bon, j'en ai noté quelques-unes, mais il y a aussi à un moment donné une sorte de mondialisation pour les nuls, version attaque d'il y a 15 ans.
Enfin,
pour le reste, c'est vrai que quand même, voilà, on va dire un point positif. Mais Vincent McCain, comme on dit à l'école, a pris les temps calmes. Non, il y a quand même des moments où ça ne crie pas, parce qu'avant, c'était quand même, le curseur était toujours à fond. Là, ça ne crie pas tout le temps. Alors, ça repose
non,
peut-être.
Moi, j'aurais laissé un bouquet d'air, ça ne criait pas tout le temps. Moi, j'ai le souvenir de Laure Calamy qui descendait en Gertrude, mais... très calme, c'était très beau.
Alors, pour le coup, ça m'avait tellement énervé que je ne me rappelle peut-être pas. Là, pour le coup, ça m'avait énervé. Mais du coup, ça repose un peu, mais ça rajoute à l'ennui. Je suis d'accord avec Philippe Chevillier, très grand décor, très chargé. Du coup, il fait quand même de belles images parfois, avec des lumières choisies, avec des fumigènes, avec beaucoup trop de nappes de synthé. Là aussi, pour le son, il faudrait varier les plaisirs, parce que vous parlez de musique, mais l'écho sur toutes les voix de tous les comédiens pendant plus de 3 heures, c'est quand même très très fatigant et c'est assez usant. Et juste encore une chose avant de vous redonner la parole, j'en aurai d'autres, mais on a reproché ici au Birgit Ensemble l'utilisation du motif de la télé-réalité. Donc Vincent Macaigne, vous l'avez dit, le fait aussi, mais c'est un effet que je trouve vraiment ringard aujourd'hui. Mais ça dure, il s'agit en fait pour celui qui a gagné de pouvoir assassiner le roi immortel. Ça devrait monter en intensité, mais ça reste plat dans le curseur à fond. Donc la scène du meurtre est assez bâclée, mal faite. Pareil quand il lui arrache les yeux. S'il y avait des ondes comme ça, enfin des forces qui montaient, qui redescendaient, mais là, voilà, c'est ni tragique ni grande guignolesque, alors qu'il pourrait y avoir ces moments d'émotion dans cette histoire-là. Je n'en ai guère ressenti. Marie-Josée Sirage, vous vouliez ajouter ?
Oui, c'est décevant parce que c'est quand même... Macaigne est un type hyper doué. Je me souviens d'avoir écrit au moment de L'Idiot que c'était un enfant gâté du théâtre. C'est-à-dire qu'il a quand même des moyens.
Ah ben ça, il supporte pas qu'on dise ça. Il m'a insulté suffisamment. Faites attention à ce que vous dites, Marie-Josée.
Je l'ai écrit. Donc
enfin, là, je sais les moyens qu'il a eus pour cette production. Il y en a beaucoup.
Pour moi, ce n'est pas insultant. C'est une réalité.
Savoir ce qu'on en fait.
Il a quand même beaucoup d'argent pour monter ses productions.
Bah, lui, il dit que non.
Il en a. Mais ceci étant, pourquoi moi, au contraire, moi je suis pour qu'il y ait de l'argent
aussi,
dans la création.
De l'argent aux artistes,
quand même.
Hein.
Il faut que l'argent aille aux artistes, qu'ils puissent travailler dans de très bonnes conditions, eux, les acteurs, qu'on les paye. Mais pourquoi faire ? Et c'est là où c'est décevant, parce que il a quand même du talent, mais il se complaît là dans un autoportrait générationnel avec des codes. Alors il y a le côté gore un petit peu par là, et au bout d'un moment on a le sentiment de venir consommer du Macaigne et non pas d'aller au théâtre. Et c'est là où il se prend un peu les pieds dans lui-même, dans le tapis, parce que il revendique le théâtre, il le revendique, il en a les capacités, il en a les moyens, et il se contente, comme vous le disiez, de nous rebalancer un texte qui ne s'élève pas, qui restait très puéril. Très voilà, donc l'inconfort, c'est un inconfort finalement où tout le monde se retrouve avec les mêmes codes et voilà, et ça ne va pas plus loin, et c'est dommage. Et
d'autant plus que samedi soir c'était la première, moi je trouvais que la salle était quand même assez atone, parce que bon, le début il y a un entraînement, il y a la musique forte, tout le monde a envie de danser, et puis au bout de 10 minutes tout le monde se rassoit, et les comédiens avaient beaucoup de mal à faire réagir
à
le
faire
public
réagir,
hein. ça marche pas tant que ça non plus, Anna Sigalevitch.
Alors moi j'étais hier, ça marchait pas mal, je dois dire, avec les spectateurs, mais quand Marie-Josée vous parlait de spectacle générationnel, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que Vincent Macaigne, il a quand même presque 40 ans, et moi, les gens que j'ai vus déchaîner hier étaient des gens entre 16 et 20 ans.
Ouais, c'est
des
ça.
Gens vraiment très 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 jeunes. Pas de sa génération à lui. Et là où vraiment ça me navre, que en fait, je sens quelque chose d'autoritaire dans son théâtre, vraiment. Et j'ai le sentiment qu'il fait subir aux spectateurs le contraire de ce qu'il semble vouloir proposer. C'est-à-dire que quand il dit qu'il cherche son dramaturge, écrit dans la note d'attention, enfin le dramaturge de Vidi, il parle d'un théâtre de vitalité, où on nous parle d'un théâtre de réveil, mais de quel réveil ? Enfin, c'est-à-dire que le réveil, c'est... Donc on dit aux gens, faites du bruit, tout le monde crie. Après on leur dit, applaudissez, tout le monde applaudit. Après on leur dit, dansez la lambada, et hop, tout le monde se met à danser la lambada. Mais moi ça m'angoisse complètement.
Moi j'avais dit au moins j'aurais laissé un beau cadavre. Je trouvais ça, pardon c'est un gros mot, mais un peu totalitaire comme régime théâtral.
Totalitaire, je ne sais pas, autoritaire. En tout cas, il y a quelque chose d'autoritaire, et les gens suivent. Et je trouve que ça ne fait jamais appel à l'intelligence des spectateurs. Jamais. On nous dit des choses, on prend pour argent comptant, on adhère ou on n'adhère pas, et si on n'adhère pas, on est complètement mis de côté, et on est spectateur de cet objet en étant totalement mis à distance. Et il y a même une chose, je trouve, qui ne grandit pas ces acteurs. Il y a des gens il y a de formidables acteurs autour de lui, ça il sait tout à fait les choisir. Autant Candice Boucher arrive à tirer son épingle du jeu au départ avec son accent québécois, etc., je trouve qu'elle arrive à... Bon, voilà, elle s'en sort. Mais... Alors, je dis pas qu'ils sont pas bien, mais Pauline Lauriard, par exemple, et Thomas Blanchard, qui sont d'excellents acteurs, là, pour moi, ils sont totalement sous-employés, sous-exploités et pas mis en lumière d'une belle manière. Voilà.
Avant de faire réagir Philippe Chevillier, Aïssa Toundoy, quelques commentaires d'internautes.
Quelques commentaires d'internautes. Un message de Violette Villard qui pointe les stigmates du style Macaigne et qui vous rejoint plutôt. Donc, les stigmates, l'outrance des signes, l'exaspération de la gorge et du cri, syndrome systématique de la fumée et de l'hémoglobine comme césure d'un changement de désastre annoncé, on hurle donc au désastre, à la déconfiture, au ravage, à tout ce qui fait décombre et révolution. Nous sommes au milieu du feu et du foutoir, dit-elle. Pour elle, McCann Subodor a raison, qu'il suffit d'une scénographie théatrogénique et étourdissante pour créer un effet de sidération et laisser le spectateur s'abstenir ou jouer. Elle souligne le sens du public du metteur en scène, une sommation à tout spectateur de vivre l'expérience jusqu'au bout de ses nerfs, jusqu'à la pointe de ses tympans. Un message de Vera Chen qui la rejoint un petit peu, c'est un spectacle beuglant, apostrophant, assénant ses tirades, désinguant son décor, vidant la tête du spectateur, du McCain pur sang. Selon elle, toujours, si l'on était moins abasourdi, on écouterait davantage la beauté de certains passages. Elle était accompagnée de son fils, qui n'a rien compris aux propos, précise-t-elle, mais qui lui a confié ceci. On attend, et puis à un certain moment, on cesse d'attendre, et ça parcourt d'autres sens. Et c'est là que Vera Chen et son fils rejoignent sur ce point l'analyse très détaillée de Violette Villard sur le site de Facebook que je vous recommande de lire.
Ouais, sur la dispute FC. Philippe Chevillier ?
Non, mais c'est sûr que cet aspect de tonitruant, ça a un côté, et je repense à la musique, ça a un côté forcément racoleur. Moi, quand j'entends les notes d'Underworld, ça, tout de suite, ça me fait vibrer, je danse quand même sur mon fauteuil. Donc ce sont des réflexes un petit peu comme ça, pavloviens, qu'on a par rapport à la musique. Et pourquoi pas créer cette forme de transe ? On peut penser aussi qu'on peut nous faire ressentir des choses émouvantes, brutales, poignantes, dans une forme de silence ou de recueillement. Tout est possible au théâtre. Je pense que les jeunes gens, en plus, ils sont ravis d'avoir un théâtre qui brise le quatrième mur, qui les fait monter sur scène. C'est vrai que c'est forcément... Alors après, justement, le problème, c'est que ça va pas forcément plus loin. Je pense aussi que dans ce spectacle, on parlait de ces passages un peu lyriques qui, moi, me paraissent un peu vides. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que dans les deux précédents spectacles, il y avait cet humour au dixième degré, mais qui était plutôt drôle et qui me faisait rire. Et là, les petites blagues, les petits gags au dixième degré parodiques, ils sont pas très réussis. Parce que quand vous parliez de Marie Curie qui va manger du curry, je sais pas où, ou quand il y a l'acteur qui dit ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, on est vraiment au niveau. Voilà.
Mais la vitre, c'est vraiment râler pas.
Et du coup, tous les ressorts qui sont au-delà des effets scénographiques de la transe qui peut se créer avec la musique, tous les effets qui viennent du texte ou du jeu. Moi, j'ai trouvé les comédiens pas mal dans leur ensemble. Ils crient moins, donc on peut effectivement voir leur talent. Mais c'est vrai que ça, pendant 3h30, une performance, il faut qu'il y ait autre chose que simplement des fumées et de la lumière.
Ouais, ce qui est dommage pour finir, c'est devant un spectacle qui quand même déploie de grands moyens, je vous rejoins, Marie-Joëlle Sirach, et qui cherche évidemment à faire bouger notre rapport au théâtre, c'est que il se passe pas grand chose. Moi, j'ai pas été dérangé ni énervé, juste ennuyé, je le répète, ce qui est quand même... Dommage, on ne va pas au théâtre pour cela. Allez voir par vous-même « Je suis un pays », comédie burlesque et tragique de notre jeunesse passée, c'est le sous-titre. Création mise en scène de Vincent McCann jusqu'au 8 décembre au Théâtre de Nanterre-Amandier dans le cadre du Festival d'automne. Et puis il y aura quelques dates en tournée du 9 au 11 janvier à Tandem, salle nationale de Douai. Puis ça reprendra à la Colline du 31 mai au 17 juin, Colline à Paris. Et puis au Holland Festival à Amsterdam du 21 au 23 juin. À suivre dans la dispute, Thomas Ostermeyer et Nicolas Bouchot.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée le lundi soir au spectacle vivant, nous rendant au Gémeaux, scène nationale de Sceaux à laquelle Thomas Ostermeyer reste fidèle. Il y présente un spectacle de la Schaubühne créé en décembre 2016 à Berlin, joué à Rennes en janvier dernier. Il s'agit d'une pièce de Schnitzer que je ne connaissais pas, professeur Bernardi, dont l'action se situe presque exclusivement dans une clinique privée. Et c'est dans ce microcosme que va se dérouler un incident qui va dévoiler jalousie, rivalité et soif de pouvoir.
Pfarrer, es wäre nicht richtig, ihr diesen letzten Traum zu nehmen. Pfarrer, es ist vorbei.
Wissenschaft. Du hast dich dem Pfarrer gegenüber unkorrekt benommen.
Herr Professor Bernardi jüdischen Glaubens wurde von Pfarrer Reda dahingehend belehrt, dass er in Erfüllung seiner priesterlichen Pflicht erschienen sei.
Wir werden unserem Bernardi heute unsere volle Solidarität aussprechen.
Solidarität? Aha, wofür denn? Ich beantrage Suspendierung unseres Direktors von der Leitung des Elisabethinums bis zum Abschluss der gegen ihn eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen.
Bist du nachtragend, Bernardi?
Nein, ich habe nur ein gutes Gedächtnis. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und andererseits.
Voilà, un peu d'allemand dans cette émission. Vous réjouissiez en entendant ces extraits, ce teaser, comme on dit aujourd'hui, de Professeur Bernardi à l'affiche des Gémeaux jusqu'au 3 décembre, hein, jusqu'à dimanche prochain. C'est toujours compliqué d'avoir des places pour les spectacles mis en scène par Thomas Ostermeyer. Faut-il se battre pour en avoir? Anna Segalevitch.
Oh, je pense que quand on y va, il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à sourd.
Attention, quand vous dites ça, vous êtes déjà fait gronder en disant ça. Alors faites attention.
J'annule cette,
débrouillez-vous.
Cette première phrase. Alors moi non plus, je ne connaissais pas ce texte. Et quel texte ?
C'est génial.
Ce texte est un chef-d'œuvre absolu. Alors j'ai d'ailleurs une protestation à faire tout de suite. C'est qu'en sortant donc, du spectacle, j'ai tout de suite voulu acheter le texte. Et au théâtre donc, des Gémeaux, on vend des t-shirts de la Schaubühneux, mais pas le texte de Schnitzler. Et je trouve ça quand même un peu dommage. Quoi, de
pouvoir... Il est disponible chez Actes Sud Papier ?
Oui, mais c'est dommage.
Non, mais bien
vraiment,
sûr. Parce qu'on a vraiment envie de
s'y
plonger.
Le texte est tellement étourdissant, éblouissant, génial, qu'on a vraiment envie de le lire, parce que c'est un texte qui est très dense, qui est très riche, avec 23 ou 24
subtils,
personnages, enfin voilà, très très subtil. Voilà, alors pour décrire un petit peu ce qui se passe en scène, c'est simple, hein, on a une sorte de boîte blanche, on est à la clinique Elisabethinum, qui est une clinique privée, dirigée par le professeur Bernardi, donc il y a une porte battante à jardin, une porte normale à cour, et puis quelques éléments de décor brillés pour que vous...
Non, parce que si on est parti sur la description, je ne suis pas sûr qu'on arrive...
Non, il y a peu d'éléments de décor, donc la
description c'est pas faux.
Courte.
Non, mais si voilà, on parlait du nombre de caméras...
Que je dirais plutôt clinique, chirurgicale, avec des éléments de décor sur roulette que les acteurs manipulent entre les scènes. On a deux caméras et un écran. Au départ, on voit une jeune femme qui est allongée, qui est malade. Et puis, le spectacle donc, commence avec ce professeur Bernardi.
Et une jeune femme qui vient aussi écrire des choses sur les murs de façon très...
Très importante, voilà.
Au fur et à mesure des scènes,
voilà, où les choses
situent en action.
Se rajoutent.
C'est vrai que je le disais aussi sur Twitter, mais je me disais, on dirait un Cy Twombly, ce qui est quand même pas mal à la fin du spectacle.
Absolument.
Cette écriture et ces notes de couleur.
Absolument. Alors... Ce texte est dément. Mais vraiment, enfin, moi j'ai été complètement, j'ai très envie de le lire. Je pense que je vais le lire parce que on a tout dans ce texte. Donc c'est un texte qui a été écrit en 1913.
12.
Comment ?
12. Enfin, il a été censuré en 12.
D'accord.
Donc a priori, il est écrit avant. Enfin, le gouvernement autrichien de l'époque était très...
Imprécis, ça va pas du tout.
Bon, 1912, censuré en Autriche tout de suite. Comme ça, au moins les choses sont claires. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que donc il y a un nombre de personnages croqués. Donc le professeur Bernardi dirige une clinique privée. Il est donc juif et une jeune femme qui vient d'avorter a une septicémie. Elle va mourir. C'est sa dernière heure de vie et elle est dans un état d'euphorie où elle se rend pas du tout compte qu'elle va mourir. Voilà. Le curé débarque pour la bénir.
L'extrême onction.
Comment ?
Pour l'extrême onction.
Oui, pour l'extrême onction, absolument. Et le professeur Bernardi refuse que le curé y aille. Parce qu'il lui dit, écoutez, non, elle va paniquer en vous voyant. Si elle comprend que vous êtes là, elle va comprendre qu'elle va mourir. Donc, je m'oppose à ce que vous alliez la voir. Le curé dit, mais comment ça, etc. Bon. Et, entre-temps, une infirmière lui dit qu'il y a le curé. Donc, elle va mourir, voilà, de panique. Enfin, de toute façon, elle serait morte. Mais bon, en tout cas, elle sait que le curé va venir. Et le curé dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on n'en restera pas là. Et là, va se mettre en place tout un système qui est mais absolument fascinant. Donc, parce que c'est toute une société qui est croquée, quoi. C'est incroyable. Avec, donc, les soutiens, les ambitieux, ceux qui le rejettent par légitimisme, d'autres qui pensent le soutenir mais en fait ne le soutiennent pas, les planches pourries, enfin bon, on a absolument tout. Et
sauf oui. que si je puis me permettre, oui. Anastasia Légy, vous avez commencé en disant le professeur Bernardi, oui. donc il est juif, sauf que cette information, elle arrive nettement plus tard dans le propos. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le déroulé de cette pièce, mais il ne s'agit pas seulement de parler du déroulé, on va parler du travail de mise en scène et de direction d'acteur. Parce ouais. que le fait qu'il soit juif intervient après, et c'est l'outil que dont vont se servir ses opposants, ceux qui veulent sa place, ceux qui veulent sa chute, pour dire, c'est parce qu'il est juif qu'il a interdit au curé de rentrer. Non, c'est parce qu'il est médecin et humaniste. C'est ce que lui rétorque.
Absolument, mais c'est aussi ce que dit enfin, c'est très ambigu tout le temps. Et par exemple, il y a un juif converti qui dit, mais non, c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de tact. Hein. Et l'autre lui dit, mais toi, t'es converti. Il dit, mais non, c'est pas parce que je suis converti que je dis ça. Enfin, il y a tout. Il y a aussi il y a deux femmes juives et c'est pas elles qui le soutiennent d'ailleurs. Donc, enfin, bon. C'est d'une subtilité, d'une intelligence absolument géniale, ce texte. Donc, premièrement, merci Ostermeyer d'avoir monté ce texte, qu'on a la chance de découvrir, parce qu'apparemment, il n'est jamais monté.
Il n'est jamais monté, parce que, comme vous le disiez, et Thomas Ostermeyer le disait dans un entretien, il y a 23 ou 24 comédiens, là, ils sont 16. Il n'y a pas beaucoup de troupes dans le monde qui peuvent proposer un spectacle avec 16 comédiens sur le plateau.
Avec 16 comédiens, puis un spectacle très long, c'est en 5 actes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Enfin, c'est une pièce très
long. Moins long que Vincent Magagne. Ça ne vous aura pas échappé, ça dure 2h30. Hein,
là, non, ça dure presque 3h.
Bon, d'accord.
Et il n'y a pas d'entracte, donc ça revient quand même que ma cagne.
Bon, alors, allons à l'essentiel et faisons tourner la parole avant de revenir vers vous, Anna Segalevitch, pour parler du travail, justement, de Thomas Ostermeyer et de ses comédiens. Philippe Chevillier.
Oui, donc, d'abord ce texte, je pense que d'après ce que j'avais lu aussi dans le même entretien, peut-être au Monde Magazine, je ne sais plus, Ostermeyer dit que le texte, s'il avait tout traduit, ça ferait 5 heures, je crois. Donc, il a raccourci et puis il a un peu adapté à aujourd'hui. Donc, ce qui est frappant, donc, c'est qu'on est face à tous les problèmes d'aujourd'hui et d'hier sur le populisme, puisque après va y avoir une dimension politique. Les populistes à l'Assemblée vont attaquer le professeur Bernardi. On a l'histoire des fake news ou des petits incidents qui sont montés en épingle parfois par les médias. On a toute cette réalité qui nous est jetée à la face. Et pour ça, Ostermeyer visiblement s'est dit je ne vais pas faire d'effet. C'est-à-dire qu'on a ce que disait tout à fait Anna, c'est qu'on a un décor qui est vraiment minimal, quelques effets de vidéo, mais qui sont plus pour servir les intermèdes où on voit grâce à un jeu de prise de vue live, on a l'impression que c'est tous les va-et-vient de l'hôpital, mais sinon c'est vraiment très austère et tout repose donc sur la direction d'acteur et sur le jeu des comédiens. C'est mené un peu comme un thriller médical et presque une série télé. On voit les événements comme ça se mettre en place. C'est assez linéaire d'ailleurs et les acteurs portent toute cette mécanique est terrible puisqu'on voit des personnages finalement tout le côté sombre de la politique de ce populisme et la part sombre des hommes est exprimée par les acteurs qui sont alors de la Chaobino qui sont extraordinaires. Donc ils ont tous avec gourmandise ils portent toutes les nuances de ces personnages. Donc il y a le professeur lui-même, je pense que le professeur Bernardi c'est vraiment un acteur qui joue très peu il fait très peu d'effets, mais un charisme assez naturel.
Mais du coup, on se demande sans arrêt ce qu'il pense, en fait, et à quoi il joue,
oui,
lui aussi.
Absolument, parce que lui, il veut défendre la vérité et l'éthique. Et c'est vrai qu'il y a un discours qui est très fort, parce que c'est pas seulement nous mettre en lumière justement ce populisme, mais c'est aussi le jusqu'où va-t-on dans la défense de la vérité, de son éthique, et à quoi ça rime quand on est peut-être pas capable de mener ce combat jusqu'au bout. Et il y a un personnage à la fin qui est un politicien qui dit bah, finalement on n'est pas assez révolutionnaire parce qu'on va pas au bout de cette éthique. Et donc là, ça se renverse un peu à la fin. C'est vraiment une pièce qui fait réfléchir.
Juste cette fin, oui, j'en ai pour une seconde, parce que c'est génial absolument quand il dit ça. Il lui dit mais vous n'êtes pas un vrai révolutionnaire et moi non plus. Donc soyons honnêtes, hein, et ne nous mêlons pas de ce genre d'histoire.
Marie-Josée Sirache sur le professeur Bernardi.
C'est vraiment... c'est l'art théâtral et le théâtre d'art porté au sommet, je trouve, d'abord par le choix de ce texte, qui est, comme vous l'avez si bien dit, est un texte incroyable, d'une richesse inouïe, qui porte la question du droit et du devoir, de la conscience et de l'inconscience, du pouvoir et du contre-pouvoir. Qu'est-ce qu'un homme seul dans son intégrité, dans son honnêteté intellectuelle, face à tout un dispositif politique qui se met en place, face à un engrenage dans lequel il est entraîné et qui le dépasse et qui va le conduire dans une impasse, c'est-à-dire en prison, et puis ensuite il y a la réhabilitation, mais c'est quand même sur une défaite de la pensée. Donc le choix du texte de la part d'Ostermeyer est déjà nous rend un service extraordinaire, parce qu'il nous met à portée de main et de penser ce texte-là, jusqu'ensuite dans son travail de metteur en scène, et c'est là où c'est magnifique, parce que évidemment qu'il y a la direction d'acteurs, le jeu des acteurs qui est admirable, mais il y a aussi la fluidité avec laquelle on passe en permanence d'une scène à l'autre, d'un univers à l'autre. Les caméras sont là, mais cette façon qu'elles ont de tout d'un coup, comme s'il y avait des drones, de projeter les changements de décor, c'est magnifique. Enfin, c'est éblouissant.
Très élégant.
C'est d'une élégance folle. Jusque dans les choix des meubles, il y a très peu de meubles, vous le disiez, mais ils sont tous très beaux. Non, mais là, pour le coup, il y a quelque chose d'extrêmement. On est dans une Autriche, c'est 1911, mais ça pourrait être aujourd'hui, parce que ce qui est quand même incroyable, c'est que cette jeune femme qui meurt au départ, elle meurt des suites d'un avortement clandestin. Et on se dit, mais waouh, d'abord c'est extrêmement gonflé d'écrire ça tel quel en 1911. Moi, je sais pas, je n'imaginais pas que comme je ne connaissais pas ce texte, je n'avais pas eu vent. Mais ce sont des Autrichiens, c'est-à-dire c'est la génération des Zweig et tout ça, c'est des gens quand même. Schnitzer, c'est quand même des gens qui portent haut la pensée, la réflexion, la façon dont le théâtre d'un couple peut venir dire des choses, révéler le monde, donner de l'espoir. Apporter de la lucidité au spectateur, au lecteur. Et ça, c'est, je trouve qu'il réussit admirablement bien, Ostermeyer.
Bon, alors c'est toujours compliqué d'arriver le dernier dans la dispute, c'est mon rôle. Hein. Après McCain, c'est Ostermeyer. Bon, beauté de la grande découverte de cette pièce, c'est sûr. Dire quand même que Schnitzer, qui était médecin, et surtout son père avant lui, et c'est pour partie inspiré quand même de choses qu'a vécues par son père, hein, ces cabales antisémites, qui évidemment étaient légion déjà à cette époque. Le milieu médical aussi, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un milieu professionnel, même si c'est un microcosme qui vaut pour la société. On comprend bien que les questions qui sont abordées ici dépassent le cadre de la clinique, elles interrogent toute une société et toute une nature humaine. Et moi, je suis effectivement assez épaté par, encore une fois, par le travail de Thomas Ostermeyer. Grande sobriété, vous le dites dans la mise en scène. C'est vrai qu'il crée beaucoup, Thomas Ostermeyer, et qu'il pourrait se reposer, comme d'autres, sur certains tics ou certains types de scénographie ou certaines béquilles, on va dire, formelles. Chez lui, je ne vois jamais quelque chose qui ressemble à autre chose.
Il se renouvelle constamment.
Alors, avec des bonheurs plus ou moins grands, évidemment. Enfin, toujours à un tel niveau que la barre est très très haute de toute façon chez lui. Donc ça, c'est quand même assez rare aussi d'avoir un metteur en scène qui se renouvelle autant. C'est assez rare pour être noté. Et puis c'est vrai que c'est un spectacle aussi qui signe le retour de Jörg Hartmann dans la troupe de Schaub Bühne, qui joue donc le rôle du professeur Bernardi. On comprend que Ostermeyer ait attendu le retour de cet acteur qui est quand même... C'est un personnage qui est quand même complètement tout en ambiguïté, on l'a dit, c'est pas du tout une figure héroïque ni révolutionnaire comme il sera dit à la fin. Intègre, on n'en sait rien, il a le même goût du pouvoir que les autres, hein, parce que quand il s'agit de toucher à son service, là les choses se passent beaucoup moins bien. Il y a beaucoup d'orgueil dans son personnage, donc c'est pas le héros pour lequel la victime injuste, d'une injustice sur lequel on s'apitoie. Donc il y a quand même tout ça qu'on voit aussi. Aïssa Tundoy, avant de donner la parole à mes camarades,
un message de Mélène 1571 sur Twitter. je la cite, c'était un vrai moment de théâtre, intelligent, subtil, bien joué et toujours juste.
Bon, voilà, ça résume pas mal nos propos.
Non, c'est sur l'ambiguïté du docteur Bernardi, ouais. Parce que moi je ne le trouve pas si ambigu, c'est-à-dire que lui, il est sûr de son droit, il est sûr de son geste, de son éthique, il défend une conception de la médecine, et il n'est pas corrompu dans le sens où il ne se laisse pas corrompre par toutes les sirènes du pouvoir qu'on lui tend. Et lui va jusqu'à... Alors, il est entêté, orgueilleux sûrement, mais... lui, il cherche la vérité quand la parole est donnée par et la parole est sans cesse, la parole donnée est sans cesse bafouée. C'est-à-dire que le ministre va lui promettre ça, mais il se et chacun trouve des s'arrange en permanence avec la vérité, donc quitte s'arrange surtout avec le mensonge et donc professe des demi-vérités. Et lui ne bouge pas. Et c'est vrai que la chute et c'est là où c'est troublant, où c'est malin, et c'est astucieux. C'est en clair, finalement, t'es un peu un couillon. Tu es le dindon de la farce parce que dans ton entêtement à ne pas vouloir céder ni aux uns ni aux autres,
même à ceux qui veulent t'aider, comme les journalistes,
d'extrême gauche qui décident de faire des meetings de soutien, c'est-à-dire c'est un Dreyfus, mais il refuse d'endosser le rôle de Dreyfus. C'est ça qui est intéressant.
Ah oui, orgueil, je crois aussi. Philippe Chevillier, peut-être pour finir.
Oui, pour certains spectateurs, je pense qu'ils peuvent être un peu déroutés parce que beaucoup s'imaginent toujours avec justement qu'il se passe toujours quelque chose avec Ostermayer et peuvent estimer que cette mise en scène là est plus pauvre et plus parce qu'elle est plus austère. Et justement, je pense que mais parce que moi je l'ai constaté, on a avec certains amis qu'il pouvait y avoir oh là là, il s'est pas foulé. En fait, c'est une épure. C'est une épure et c'est surtout c'est la force de vouloir dire du politique à une Allemagne qui en ce moment en a besoin. Et à un moment où l'Europe en a besoin.
Bon, pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais on parlait de Vincent McCain tout à l'heure. Mais là, le travail d'Ostermayer, c'est de laisser toute la place au texte et toute la place aux acteurs. Et du coup, on a entendu beaucoup de choses. Bon, c'est Schneider, hein, c'est pas tout à fait rien non plus. Anna Segalevitch.
Et au spectateur qui a le temps de réfléchir.
Oui, oui.
Il y a notamment une scène.
Du coup, la place pour nous.
Je t'écris juste une mini-scène géniale, celle avec le curé. Donc
non,
le jeune
vous
ne
direz rien, parce qu'il faut vraiment la découvrir, Anna. Oh, non, on gâchez pas le plaisir de celles et ceux qui vont se battre pour avoir des places, après nous avoir écoutés, pour aller voir Professeur Bernardi.
Juste sur les Chevillier. Surtitres.
Sur les surtitres.
C'est la première fois que je voyais des surtitres en noir sur blanc. C'était magnifique.
Ouais, je trouvais ça très beau. Oui, il y en a beaucoup de fautes d'orthographe.
Parce qu'on les voit. Parce qu'on voit les surtitres, donc on voit les fautes d'orthographe.
Bon, ça peut faire mal aux yeux, le blanc. Moi, je trouvais ça très, très beau aussi. On lit un livre, d'une certaine façon aussi. Professeur Bernardi, donc, adapté et mise en scène par Thomas Ostermayer, cette pièce géniale d'Arthur Schnitzer. La Comédie française pourrait peut-être s'en emparer. Ils ont une troupe, ils ont les moyens de... Je dis ça, juste en passant. Salut Eric Ruff. C'est jusqu'au 3 décembre, au Théâtre des Gémeaux.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant, à nouveau dans le cadre du Festival d'automne à Paris, c'est Maîtres anciens, d'après Thomas Bernhard, un projet de et avec Nicolas Bouchaud, dans une mise en scène d'Éric Didry. C'est l'avant-dernier roman de l'écrivain autrichien. Trois personnages qui se croisent au musée d'art ancien de Vienne, qui vont disserter sur l'art, sur l'enfance, sur la religion, sur l'industrie musicale. Un vrai jeu de massacre.
Les gens ne vont au musée d'art ancien que parce que cela se fait pour nulle autre raison. Ils viennent même d'Espagne ou du Portugal à Vienne pour pouvoir dire chez eux, en Espagne ou au Portugal, qu'ils sont allés au musée d'art ancien de Vienne. C'est tout à fait ridicule. Au musée d'art ancien, il n'y a même pas de Goya. C'est positivement mortel. Pas de Goya. Cela ressemble bien au Habsbourg. Et comme vous le savez, n'avait aucun jugement artistique. Une oreille pour la musique, oui, mais aucun jugement artistique. Ils ont entendu Beethoven et ont laissé à Beethoven la liberté du bouffon, car la musique était pour eux sans danger, mais Goya, lui, n'avait pas le droit de pénétrer en Autriche. Eh oui, mon Dieu, me dis-je souvent, assis sur cette banquette, tandis que les historiens d'art chassent devant eux leur troupeau impuissant. Quel dommage pour tous ces gens dégoûtés de l'art par ces historiens d'art qui bavardent sur l'art jusqu'à ce qu'ils l'aient tué de leur bavardage. Chassés à coups de fouet du monde de l'art, expulsés du monde de l'art, tels devraient être tous les historiens d'art. Hirziegler est plus avancé que tous ces historiens d'art bavards qui détruisent pour la vie l'art à des douzaines de classes d'écoliers qu'ils chassent devant eux. Une fois qu'ils sont entrés au musée avec leur professeur, ces élèves n'y entreront plus de leur vie. La première visite de tous ces jeunes gens est en même temps leur dernière. Aujourd'hui encore, les innombrables têtes stupides des professeurs continuent de s'attaquer brutalement à l'élan de leurs élèves vers l'art. petits bourgeois jusqu'au bout des ongles, les professeurs rabaissent l'art et tout ce qui touche à l'art à leur propre dilettantisme stupide et déprimant. Et dans toutes les écoles, réduisent l'art à leur détestable air de flûte et à sa reprise en chœur tout aussi détestable.
Voilà pour cet extrait de Maîtres anciens, en ce moment à l'affiche du Théâtre de la Bastille. Il y aura d'autres dates à venir au mois de janvier et février, je vous les donnerai à l'issue de cette discussion. Alors moi je suis un grand fervent de ce tandem Nicolas Bouchard et Didry, hein, qui est le quatrième spectacle ensemble. Grand fervent ça, les auditeurs fidèles le savent, de Thomas Bernard, mais je n'ai pas encore pu voir ce spectacle pour des raisons d'agenda et d'horaire de cette émission aussi. Philippe Chevillier, vous commencez sur Maîtres anciens?
Eh bien, il y a une évidence à retrouver Nicolas Bouchaud avec Thomas Bernard. Avec dès les premiers mots, on a l'impression que, bah oui, ils étaient faits l'un pour l'autre, si je puis dire. On se retrouve dans un monologue. En fait, le roman d'où est tirée la pièce, dont est tirée la pièce, et dedans il y a un narrateur, Hatzbacher, qui est plus ou moins philosophe et qui va évoquer ce vieux critique musical qui paraît un peu aigri, qui passe sa journée donc dans un musée face à un tableau du Tintoret, musée de Vienne. Et l'adaptation qui est vraiment bien faite, je trouve, et ben transforme cela en pur monologue. Et Hatzbacher n'est pas là, mais c'est le public. On est, enfin, le Nicolas Bouchaud, Reger, s'adresse au public. Et donc ça brise tout de suite le quatrième mur. Et on est vraiment dans une relation directe et intime avec Nicolas Bouchaud, Reger, qui joue un personnage très âgé, mais qui devient tout d'un coup d'une jeunesse incroyable et d'une férocité, en s'attaquant un petit peu à tout, évidemment toute l'Autriche, ça on a l'habitude, à la politique, à l'État, à la famille, à Beethoven, qui est quand même très kitsch et qui est lourdingue, à Heidegger, à Mahler, et ce flot continue, il sait absolument maîtriser toutes les nuances d'un texte, il arrive à nous en faire vraiment un discours très modulé qui parfois devient presque un flow slamé, je trouve, parce qu'il y a ces mots qui reviennent sans arrêt, ça tourne en boucle avec Thomas Bernard. Et ce qui est aussi assez merveilleux, c'est que le texte s'appelle, la pièce est sous-titrée comédie, et donc on a bien cette dimension de joie féroce, mais tout d'un coup, petit à petit, apparaît le deuil du personnage qui a perdu donc sa femme, comme Thomas Bernard avait perdu la sienne, je crois, peu de temps auparavant. Et donc, tout d'un coup, le personnage devient de plus en plus pathétique et s'exprime cette solitude. Et on en arrive au cœur de l'essence de l'œuvre de Thomas Bernard, à la fois de cette détestation du monde et cet amour forcené des humains qui fait que peut pas s'en passer et que il n'a que son ami, enfin il n'a que le public du coup, et il n'a que les gens qui croisent dans la rue pour pouvoir survivre. Il a besoin des autres. Et il y a cette partie-là, tout d'un coup, qui devient extrêmement prégnante. Et puis une fin qui nous parle aussi de la liberté par rapport à l'art. Quand il se moque des institutions, quand il se moque des critiques d'art, c'est pour dire qu'il faut prendre aussi sa liberté par rapport aux œuvres. Peut-être pas aller chercher toujours trop loin dans les œuvres, mais simplement les recevoir, les ressentir et s'émanciper. J'ai trouvé que c'était un très beau spectacle, 1h30, qu'on ne voit pas passer.
Marie-Josée Sirage sur Maîtres anciens.
1h30, 1h22, je crois. Et j'aime beaucoup cet horaire-là parce qu'il a un côté SNCF et j'aime bien. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que c'est un régal pour Louis, pour l'esprit, pour l'âme. Enfin, on sort de là totalement réconcilié avec la vie, avec l'art du temps, parce qu'il nous rend intelligents, Thomas Bernard, mais aussi Nicolas Bouchaud, parce que c'est pas évident. Il endosse, je crois, 3 personnages et il parvient à déjouer tous les pièges de la facilité. Il y a ce rapport extrêmement intime avec le spectateur et il n'est pas dans le tape à l'œil. C'est-à-dire, il n'y a pas le côté performatif qui est là, sur lequel il pourrait appuyer. Non, tout est dans la retenue et on se régale de la façon dont il nous rend c'est les mots de Thomas Bernard. Cette rage qu'il a, c'est drôle, c'est cruel quand il dénonce tout l'art officiel, la philosophie officielle, la religion officielle et puis Et c'est incroyable, cet homme qui vient depuis 40 ans ou 30 ans, je ne sais plus, mais devant l'homme à la barbe blanche du Tintoret, tout seul sur son banc, à force il est devenu, non pas ami, mais intime avec le gardien, et puis qui peste parce qu'il y a un tableau du Tintoret, pas du Goya, et il a entièrement raison.
Marie-Loé Sirage, on vous reconnaît bien là, dans ce tropisme hispanique.
Absolument, que j'assume.
Bah, je sais bien, vous revendiquez haut et fort, vous avez raison. On peut aimer le Tintoret par ailleurs. Anna Segalevitch.
Alors moi, c'est plus compliqué que ça, le rapport que j'ai eu à ce spectacle.
J'ai beaucoup aimé, hein. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que j'y suis allée en étant contente de retrouver Nicolas Bouchot à nouveau dans cette forme. Voilà, j'avais beaucoup aimé les précédents spectacles. La loi du marcheur et un métier idéal étaient très évidents, à mon sens, très accessibles. Le méridien était plus ardu.
Rude, oui.
Voilà, beaucoup plus ardu. Mais c'était presque mon préféré. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de passionnant. Qu'il y avait quelque chose de très audacieux, où il était vraiment question de la réinvention de la forme. Et il est à nouveau question de ça dans ce spectacle. C'est-à-dire que on se dit que c'est évident, comme l'ont dit Philippe et Marie-Josée très justement, c'est évident, Nicolas Bouchot avec Thomas Bernard. Sur le papier, c'est évident, totalement. Et alors moi, je me suis dit, au début du spectacle, je me dis, bah oui, mais c'est trop évident, en fait, ça m'ennuie. Bien sûr que Nicolas Bouchot est totalement bernardien et qu'il va faire ça génialement. Puis donc j'ai observé le spectacle et je le voyais un peu faire très très bien, mais je voyais un peu les coutures des choses. Et alors là où c'est intéressant, c'est qu'il y a eu tout un processus, comme une mise en abîme qui s'est passée en moi. C'est-à-dire que en gros, le propos du spectacle, c'est attention à l'admiration, attention, tous les chefs-d'œuvre ont des défauts et ils sont imparfaits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se rebeller contre les maîtres pour pouvoir y revenir. C'est un rapport d'amour-haine à l'art. Et en fait, quelque part, il y a eu une sorte de processus un peu comme ça en moi qui s'est fait. C'est-à-dire, je me dis, oui, bah Nicolas Bouchot, bien sûr, c'est un excellent acteur, mais bon, on le sait. En fait, que c'est un excellent acteur, on le sait que ça marche très bien avec Éric Didry, tout ça. Et donc, je le regardais, je me dis, oh, à un moment donné, il a fait venir une femme sur scène, je me dis, c'est un peu une béquille, c'est un peu facile. Enfin, je me suis surprise à pinailler, en fait, comme le propre personnage de. Et puis, après, je me suis dit, oui, mais en même temps, c'est magnifique tout ce qui est dit, et c'est aussi pour ça. J'ai eu l'impression qu'il s'engageait d'une autre façon, que c'était moins parfait et que c'était ça qui était beau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus théâtral dans ce spectacle, de plus risqué, de plus fragile. Et donc, en fait, c'est tout un chemin que je trouve absolument magnifique. Voilà.
Philippe Chevillier, vous voyez ce que veut dire Anna Sigalevitch ?
Oui, je vois. Mais encore une fois, c'est d'abord, je pense que ce texte lu par un comédien qui n'est pas de la qualité de Nicolas Bouchot, ça peut être très, très ennuyeux. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, quand on est dans la pure logorée un peu classique de Thomas Bernard contre l'Autriche, l'État, etc., on est dans un flow un peu habituel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est toutes les failles qu'il arrive à petit à petit à instiller dans son personnage et dans son discours ce retournement quand il devient vraiment humain et qu'on en oublie justement le personnage et l'acteur, sans compter qu'il y a aussi une mise en scène qui est intéressante, je trouve, de où il fait des petites installations un peu punk,
un peu ironique, il y a beaucoup d'ironie là-dedans,
beaucoup d'ironie, où détruit pas mal de choses, il y a des tableaux qui sont de travers, qui tombent de travers, il y a un disque qui est carrément explosé après avoir dit du mal de Beethoven et même de Bach,
ce puant de Bach, et en même temps on écoute une fugue quasiment en entier, voilà. C'est ce qui est très beau aussi.
Je suis en train de regarder pendant que vous parliez, je me disais qu'on avait la chance d'avoir Dominique Valadier en début de saison qui jouait du Thomas Bernard divinement dans Au But. Je regardais si ça durait encore, non, ça s'est terminé le 5 novembre. C'était vraiment une chose absolument magnifique. Là, Nicolas Bouchot, nul doute que je vais y aller, hein. Je me doutais, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri, effectivement, de trébucher. Pas de commentaire particulier, Aïssa Toundoy ?
Un message de Ludovic Morin qui pourrait revoir cette pièce deux ou trois fois, car pour lui, Nicolas Bouchot est un génie, simplement.
Bon, c'est très bien, comme Thomas Bernard n'est pas la moitié d'un génie non plus, du coup, ça fait une belle équipe. On s'arrête là pour Maîtres anciens, d'après Thomas Bernard, un projet de et avec Nicolas Bouchot, mise en scène d'Éric Didry. C'est jusqu'au 22 décembre, ce qui me laisse le temps, au Théâtre de la Bastille, à Paris, dans le cadre du Festival d'automne, et puis d'autres dates à venir, 16 et 17 janvier, au Théâtre de Chelles, et puis 15, 16 et 17 février, au Théâtre Garonne. Et avant de conclure tout à fait cette émission, comme chaque soir, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et comme chaque soir, Grégoire Di Fiore nous a rejoint pour d'abord un rappel concernant le jeu de vendredi soir. Rappel de la question puis découverte de la réponse.
À quel artiste David Hockney a reproché un processus créatif insultant les artisans ? Et la réponse était Damien Hirst.
Bon, ben voilà, salut à Damien Hirst également. Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Botero Dialogue avec Picasso. C'est une exposition qu'on peut découvrir jusqu'au 11 mars à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Quelle est la question, Grégoire ?
Quel est le nom de la sculpture de bronze de Botero dérobée au début du mois de novembre dans une galerie d'art parisienne ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi bien sûr réécouter nos émissions. Et puis quand vous êtes sur le site, vous vous abonnez au podcast de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain à poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, à moins que vous n'attendiez le direct pour commenter via le compte Twitter Dispute FC. Demain, donc à 19h, une dispute consacrée à la musique. Nous serons en compagnie d'Emmanuel Giuliani, Lucille Como et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, l'exposition Patrice Chéreau, mettre en scène l'opéra à la Bibliothèque Musée de l'Opéra de Paris, au Palais Garnier. Nous parlerons aussi de La Maison des Morts, l'opéra de Leon Janáček, dirigé en ce moment par Esa-Pekka Salonen, dans la reprise de la mise en scène de Patrice Chéreau à l'Opéra de Paris. Et puis, qu'on peut trouver également en DVD, dirigé par Pierre Boulez, dans la mise en scène de Patrice Chéreau à sa création à Aix-en-Provence. DVD chez Deutsche Grammophon. Et enfin, un CD, Haydn, Mozart et Guénin, par Julien Chauvin et le concert de la loge, CD sorti chez Aparté.